patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à la complainte au travail. Aujourd'hui, l'émission va traiter d'intégration des personnes ayant un handicap dans la société, particulièrement aussi sur le marché du travail. Aujourd'hui, l'émission va être animée par moi-même, Roxane Deniger et Sandy Tremblay.
Bonjour!
Aujourd'hui, on est chanceuses. On a deux invités. Hugues Mailloux.
Bonjour.
Bonjour. Et Marc Bourgault.
Bonjour.
Les deux invités sont membres d'Handicapables. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à ce qu'Handicapables fait et tout ça pour rallier avec notre sujet. Donc, Handicapables, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 1978, dont la mission principale est de concilier le fait d'avoir un handicap physique et le désir de travailler. Marc, est-ce que tu peux nous faire un bref historique d'Handicapables?
Oui, certainement. Mais avant toute chose, Roxane, je voudrais vous remercier de nous avoir invités pour pouvoir en parler. Je l'apprécie beaucoup. Comme tu disais, en 1978, c'est 12 personnes handicapées physiques qui ont eu le goût du travail. Puis pour voir s'accomplir dans le travail, ils ont créé une coopérative qui a appelé la Fourmilière. Au début, ils pensaient faire un atelier où qu'ils fabriqueraient des objets de bois. Mais avec l'OPHQ, qui normalement faisait des programmes d'intégration, ils n'ont pas accepté ce projet-là. Alors là, ils ont réfléchi à tout ça. Puis avec de la recherche, d'autres intervenants, ils ont fini par créer un produit, le bloc de culture. Ils l'ont appelé Economics. Ça a duré 7 ans comme expérience de coopérative. Par la suite, bien, les coûts étaient trop dispendieux, c'était pas rentable. Ils ont réfléchi à comment ils pourraient faire, puis ils ont saisi que la meilleure chose, c'était de devenir un organisme de bienfaisance en 2000 qui s'appelle Handicapables aujourd'hui.
Donc, la mission, elle a un petit peu changé maintenant.
Disons que la mission demeure la même. Surtout, les valeurs que transportait la fourmilière, Handicapables les a récupérées. C'est donc les valeurs tournées vers le travail pour personnes handicapées physiques, dans un réseau d'entraide, un réseau de soutien.
C'est parfait, ça. C'est quoi la place accordée par votre organisme aux gens qui ont une déficience intellectuelle?
Bien, en fait, l'organisme a vraiment ciblé les personnes handicapées physiques qui ont le goût du travail. On n'a pas vraiment un accueil vis-à-vis des personnes qui ont un handicap, une déficience plutôt intellectuelle, parce qu'eux autres étaient déjà pas mal bien encadrés, puis il y avait déjà des ateliers de travail pour eux. Alors, on n'a pas mélangé ça, là. Ils ont déjà une bonne structure d'établi. Donc, nous, on a été chercher plutôt les gens qui sont nés avec un handicap physique, soit que suite à un accident, ils sont devenus handicapés physiquement, ou encore qui vivent une maladie handicapante.
OK. Donc, les gens qui ont les deux, habituellement, vont aller... où est-ce que la problématique est plus grande? Je ne sais pas si vous saisissez bien la question. En fait, si j'avais une déficience intellectuelle et en plus un handicap physique, probablement que j'irais sur un plateau de travail qui s'occupe des gens qui ont une déficience intellectuelle.
Tout à fait.
Est-ce que les gens à la recherche d'emploi vont voir Handicapables?
Effectivement, il y a des gens qui viennent nous rencontrer parce qu'ils sont à la recherche d'emploi. On leur explique, par contre, que ce n'est pas notre rôle à nous. On les réfère à un organisme qui s'appelle TravAction, qui ont vraiment cette mission-là de permettre aux personnes handicapées de pouvoir réintégrer le milieu du travail. Par contre, on leur indique que chez nous, ils peuvent quand même trouver un réseau d'entraide dans leur démarche de recherche d'emploi.
Et ce qu'on entendait par volonté de travailler, qu'est-ce que les gens peuvent faire à votre organisme?
Bien, quand on parle de notion du travail chez nous, c'est au niveau très large. C'est surtout des personnes. Il faut préciser que plusieurs personnes handicapées physiques ne pourront jamais aller dans un milieu de travail dit traditionnel. Par contre, la valeur du travail, c'est elle qu'on supporte. Une personne peut être chez elle avec un handicap très lourd, mais avoir une activité quotidienne que l'on valorise comme étant une action de travail, une activité de travail. Comme quelqu'un peut être dans un bureau au gouvernement, assis dans une chaise roulante et travailler. Puis entre les deux, il y a toute la gamme, là.
Tout à l'heure, on avait abordé les valeurs de l'organisme. Est-ce que tu peux les nommer?
Oui, c'est sûr que, de base, ce sont toutes les valeurs que l'on dit nobles du travail. Pour en citer quelques-unes que nous privilégions, il y a cette idée-là d'une contribution de la personne à la communauté par le travail, enrichir les autres par notre action. On croit aussi au droit fondamental au travail pour tous. Aussi à l'autonomie financière par le travail, et c'est possible, si c'est pas possible, pardon, par la création d'un régime adapté aux personnes handicapées physiques qui ne peuvent pas retourner dans un milieu de travail traditionnel, et l'accomplissement de soi. Ce sont là les principales valeurs, je crois, qu'on privilégie.
Donc, c'est des belles valeurs d'accueil et d'égalité. Parce que les personnes handicapées, malheureusement, vivent beaucoup d'exclusion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que l'exclusion et pourquoi les personnes ayant un handicap en vivent davantage que les autres?
Oui, je trouve ça intéressant comme question. C'est sûr que là, je vais plus parler de l'exclusion en fonction du travail, naturellement. Puis, sans vouloir être trop restrictif, je dirais que cette exclusion-là serait la non-reconnaissance au droit du travail. C'est le fait d'être écarté des bénéfices liés au travail et à une vie sociale. J'aimerais quand même dire que toute personne handicapée physique n'est pas exclue du travail. J'en connais des personnes qui, parce qu'ils sont capables, malgré leur handicap physique, de correspondre au rendement demandé, bien qu'ils sont vraiment bien intégrés. Mais en fait, ce n'est pas la majorité. À mon avis, la majorité ne correspond juste pas pas aux exigences demandées par les employeurs, que ce soit au niveau de la formation, de l'expérience, de la force physique souvent, ou de la dextérité. De manière automatique, ils sont comme exclus de la possibilité d'avoir l'emploi. Puis j'en profiterai pour dire que c'est pas considéré chez nous comme, je sais pas moi, une exclusion qu'on dirait ciblée volontairement par la société, mais vraiment la conséquence d'un processus de sélection. Et c'est pour ça que handicapable a le souci, malgré que ce n'est pas du travail nécessairement comme on est habitué d'entendre, on a le souci de valoriser toute action, toute démarche qui a un rapport avec le travail.
Donc, c'est ça. Fait que la productivité, c'est bien, mais en même temps, il y a aussi tout le processus de ce que le travail devrait être, si je comprends bien.
Tout à fait.
Malheureusement, je pense aussi que les personnes ayant un handicap sont victimes de préjugés à la base. Ça peut être très, très difficile aussi. Ça peut être une barrière pour aller se trouver un emploi quand on se fait refuser plusieurs fois.
Ouais.
Donc, c'est quoi les conséquences pour les personnes qui vivent de l'exclusion?
Bien, c'est intéressant. Déjà, le préjugé, c'est une conséquence quand même importante. Puis c'est une conséquence qui normalement... pas normalement, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est sûr que cette exclusion-là amène les gens à être un peu condamnés à la pauvreté. La perte importante du sentiment de confiance en soi, ça, je l'ai remarqué beaucoup. Moi-même, je l'ai déjà ressenti. C'est un plus grand effort pour donner un sens à notre vie, jouer un rôle en société, puis trouver le rôle qu'on doit jouer en société, puis même parfois trouver le bonheur. C'est pour ça qu'Handicapable cherche à briser cet isolement-là, puis à valoriser toute action qui pourrait être considérée comme un apport dans la société.
OK. Handicapable fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce que les employeurs peuvent faire? Parce que on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie, mais il y a quelques handicaps physiques qui nécessitent du matériel adapté. Est-ce que c'est possible d'intégrer ces personnes sans défrayer d'énormes coûts?
C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, je crois que beaucoup d'employeurs ont le sentiment qu'ils pourraient faire quelque chose pour intégrer les personnes handicapées physiques. Mais en même temps, c'est sûr que les autres, c'est normal, hein, ils veulent faire de l'argent, puis ils veulent que ce soit productif, puis ils voient les coûts reliés à toute cette démarche-là. J'en profiterai aujourd'hui pour dire à ces employeurs-là qu'il y a des employeurs qui ont fait le beau risque d'engager des personnes handicapées physiques et qui sont très heureux aujourd'hui, mais il y en a même qui ont réengagé d'autres personnes. Mais ça, c'est pas nous qui avons ce mandat-là. Je leur ai dit, c'est TravAction. Et s'ils communiquent avec TravAction, ils vont pouvoir voir qu'il y a des programmes de subvention d'aide aux employeurs. Et ça, c'est très important qu'ils puissent bien connaître ce programme-là puis se rendre compte que ça peut être pas juste valorisant pour la personne handicapée physique, mais enrichissant pour l'entreprise.
C'est une réponse assez complète. Si on parle en général, comment on fait pour contrer l'inégalité des chances? En fait, les gens qui sont nés handicapés n'ont pas nécessairement une mesure de protection supplémentaire, contrairement à d'autres pays. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus?
Je dirais déjà de faire des émissions comme aujourd'hui, où on peut dire aux gens, il y a des gens qui sont handicapés physiques, mais qui sont capables de travailler, de donner un apport. Je pense que cette sensibilisation-là, cette façon de dire les choses, aide déjà. Mais de façon plus précise, on a une revendication très importante, c'est qu'on voudrait qu'il y ait un régime spécifique et adapté à la condition des personnes handicapées ici au Québec. Parce qu'en ce moment, ces gens-là sont référés au système de l'assistance sociale, du bien-être social. Donc, c'est comme un ancrage dans un système de pauvreté puis d'incapacité de s'intégrer. On a M. Maurice Richard, qui est membre d'Handicapam, puis qui a remis à sa députée dernièrement un mémoire qui sera déposé le 7 décembre prochain à Sherbrooke lors de la consultation contre la pauvreté. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce mémoire-là, Maurice. Et c'est vraiment là, l'élaboration-là de ce principe-là qu'on voudrait avoir un régime spécifique adapté à nous. Naturellement, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même 28 000 personnes ici au Québec qui ne seront jamais capables d'intégrer le marché d'emploi dit normal. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'on les réfère au système du bien-être social qui est vraiment inadéquat pour leur situation. Il y a aussi toutes les autres causes qu'on appuie toujours, soit le sous-financement au logement adapté, au transport adapté, au maintien à domicile, la gratuité de médicaments, parce qu'il y a aussi un vice là, du fait d'être sur le bien-être social. Parce que du moment que la personne handicapée physique veut s'intégrer au travail, après 3 ans, elle perd tous ses droits comme le paiement de ses médicaments. Et souvent, c'est des emplois qui ne sont pas assez rémunérés pour avoir la charge de ces choses-là lui-même. Donc, il lâche l'emploi puis retombe dans un statut précaire. Et aussi, le fait qu'on voudrait que les conjoints soient considérés comme des aidants naturels.
C'est beaucoup de revendications. Je crois qu'on va aller faire une petite pause musicale
On va aller avec les colocs et peut-être juste avant d'aller à la pause, remercier Marc pour sa belle présentation des revendications et peut-être lui dire que si jamais, dans le cadre de vos revendications, vous voulez avoir des appuis, vous serez toujours le bienvenu pour revenir à notre émission puis faire part de ces revendications-là. Ça va nous faire plaisir d'inviter la population à se joindre à vos luttes. C'était très, très, très intéressant.
Je vous remercie beaucoup.
Alors, effectivement, on va se laisser en musique et la chanson s'intitule Boyau sur le disque je l'ai magané, hein?
Oui.
Atrocétomique, je suis désolée. Alors, on se quitte, puis on revient tout de suite après.
CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
J'm'opire avec les chiffres, puis j'sais me servir de ma cervelle. Bon Dieu, sûr que je vais me caser. Je vais me lever tôt tous les matins, puis je te promets d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé, pour y aller, pour pas te tomber.
Voilà de retour à la complainte du travail. Je vous rappelle le sujet de notre émission, l'intégration des personnes ayant un handicap dans la société, particulièrement sur le marché du travail. La deuxième partie de notre émission, ça va être plus un peu témoignage, si on veut. Vous rappelez, au début, on a deux invités, Hugues et Marc. Ça paraît pas à la radio, mais Hugues a un handicap visuel. Et Marc a une maladie handicapante qui est la fibromyalgie. Hugues, est-ce que tu peux parler un peu de c'est quoi tes limites et tes forces d'avoir un handicap visuel?
Mes limites, c'est surtout, par exemple, le fait de ne pas accomplir une tâche qui nécessite de la vision. Comme par exemple, c'est sûr que l'exemple commun que je peux donner, c'est conduire un auto ou un camion, peu importe. Ça, c'est un exemple bien commun.
Et donc, aussi des forces que tu as développées?
La force, c'est la mémoire, surtout là, dans mon cas, là, l'exemple au niveau musical, puis au niveau aussi de la lecture, de l'écriture, parce que moi, j'emploie beaucoup la mémoire pour travailler sur l'informatique.
Puis aussi, tu te déplaces bien, hein? Tu es autonome dans tes déplacements généralement. Hein?
Effectivement, parce que ça permet de développer mon autonomie au niveau orientation dans l'espace et la mobilité.
Donc, toi, tu n'as pas aucune difficulté avec tes mains, tout ce qui est préhension et tout?
Bien, en fait, c'est sûr que je ne suis pas manuel, là, mais par contre, mes mains servent plutôt pour... soit pour écrire ou pour exécuter mes prestations musicales.
Quel genre de travail on peut faire quand on a un handicap visuel?
Tout dépend, parce que je sais que dans mon cas, j'utilise beaucoup le braille, sauf qu'au niveau du braille, c'est quand même assez limité. Puis très souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que les gens qui veulent avoir des emplois dans le domaine du braille, par exemple, bien, c'est que ils demandent tellement de qualifications que ça éloigne les gens à la longue.
Aussi, quand tu as un matériel adapté, dans le fond, tu peux vraiment faire comme tout le monde, un peu comme ta montre, où est-ce que tu lis le braille, tu peux lire l'heure.
Oui, puis aussi j'utilise aussi des appareils adaptés qui sont munis de synthèse vocale, comme par exemple un lecteur de billets de banque qui permet d'identifier mes billets, puis aussi une calculatrice parlante qui permet de, comment je pourrais dire, de calculer mon budget, de calculer ce que j'ai à produire.
Puis aussi, en handicapable, je crois que tu as du matériel adapté au niveau informatique.
Effectivement, je travaille avec un poste adapté, de travail adapté qui est muni d'un logiciel qui s'appelle Speaky, S-P-E-A-K-E-Y, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit. Les Français, ils prononcent Speaky. Donc, c'est un logiciel qui est composé de différents menus et de sous-menus. Et à l'intérieur de ces sous-menus-là, ça permet d'aller dans l'option où on veut aller. Comme par exemple, si je veux aller à l'option courrier électronique, bien, à ce moment-là, j'écoute les instructions qui m'amènent directement à l'option écrire un courrier électronique ou envoyer un courrier électronique, peu importe.
Donc, tu es capable d'écrire?
Oui, effectivement. Oui. Parce que écrire, ça fait partie de mes forces, puis ça me permet de m'exprimer librement.
C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire comme travail que ton handicap ne permet pas de faire?
Ben exemple, c'est sûr que travailler le bois, ça demande beaucoup de précision aussi, puis de vision. Puis ce que je peux dire à travers ça aussi, c'est que les gens qui utilisent la vision, c'est que c'est ce que je peux leur dire à travers ça aussi, c'est de prendre soin de leur vue, puis de s'en servir pour pouvoir être en sécurité dans les tâches précises qu'ils ont à accomplir.
Oui, puis Marc, je ne sais pas si ça tente d'en parler, mais je me souviens quand je suis allée te voir, tu me parlais d'un de tes amis qui avait un handicap physique et qui s'est rendu quand même très loin.
Oui, j'imagine qu'on parlait de Francis.
Oui.
Francis, lui... Son talent, c'est vraiment la poésie. Par contre, il n'a pas la capacité d'écrire le recueil. Ça fait qu'un handicapable, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on jumelle.
Un voyant avec un non-voyant?
Non, mais lui, il est voyant. C'est au niveau de son handicap physique, là, ses limites. Ça fait qu'une autre personne pouvait inscrire ses poèmes. Lui, il les dit. Puis il a quand même fait deux recueils de poésie là, jusqu'à temps.
Oui, puis tu as aussi un ami qui est devenu avocat, si je me trompe pas.
Ah, au niveau non-voyant, oui, j'ai un ami à Montréal que j'ai connu il y a longtemps, puis il est allé à l'université et tout, puis aujourd'hui, il est devenu avocat. Mais, naturellement, il s'occupe de la cause là, des personnes non-voyantes.
Donc, il y a des limites, mais aussi, des fois, il faut persévérer pour dépasser ces limites aussi que la société nous impose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Hugues, de te faire refuser en emploi?
Très souvent, parce qu'à force d'être refusé un emploi, c'est que ça me mène à abandonner, à décrocher, puis c'est vraiment pas de tout repos de se battre toujours pour faire valoir ses valeurs, et puis c'est ça qui m'est arrivé.
Oui, toi, Marc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre un emploi ou de...
Mais c'est sûr que quand la maladie a pris toute la place, j'ai perdu l'emploi que j'avais depuis quelques années. Et depuis, ça, c'est quand même en 2002. Donc, il y a 2 ans, j'ai pu me réintégrer à travers un programme. Là, mais,
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça fait, ta maladie? Parce que c'est pas tous les gens qui connaissent qu'est-ce que la fibromyalgie.
Bien, au niveau du travail, c'est sûr que la maladie de la fibromyalgie, c'est que c'est mes forces hein, qui sont plus présentes. Donc, l'endurance n'est plus là. Donc, je peux pas vivre une journée de travail normale là, avec plusieurs heures, avec une pression toujours présente. J'ai besoin, dans ma journée, d'avoir des temps d'arrêt où je peux aller me reposer. Puis c'est surtout là la difficulté de ma maladie. La fibromyalgie, c'est... un problème neurologique qui fait que nous sommes toujours en douleur et ça finit par faire en sorte qu'on est en fatigue chronique, puis ça développe d'autres problèmes de santé du genre.
OK. Parce que c'est ça, ça paraît pas du tout. Là. En fait, vous pouvez croiser Marc dans la rue et vous n'allez pas savoir qu'il y a la fibromyalgie. Une des dernières questions que j'ai à poser, dans le fond, qu'est-ce qu'handicapable représente pour vous? Je vais commencer avec une.
Bien, handicapable, pour moi, c'est un groupement de chums, comme je dis au Québec, d'un regroupement d'amis. C'est une famille, c'est plus qu'un organisme. Ça me permet de sortir assez souvent. Comme présentement, j'effectue des travaux bénévolement à l'organisme. Ça me donne la motivation de marcher, la motivation aussi de, d'accomplir quelque chose, de me sentir valorisé, puis être utile au niveau de la société.
Oui, parce que t'es réceptionniste un peu en handicapante, c'est ça?
Oui, oui. Le travail, bien, ça consiste à répondre au téléphone, prendre des messages, les envoyer par courriel, si nécessaire, à la bonne personne, et puis le tour est joué. Puis j'aime bien ça. Sauf que ce qui arrive assez souvent, c'est que quand je suis seul au bureau, j'entends seulement qu'une mouche voler.
Et puis Thomas, qu'est-ce que ça représente pour toi, handicapable?
Bien, handicapable, pour moi, ça a été vraiment... Bien, aujourd'hui, au début, c'était pour m'intégrer dans un programme qu'on appelait Interagir. Mais au cours de ces deux ans-là, il y a des liens profonds qui s'est créés. J'ai découvert des gens exceptionnels, extraordinaires, qui, par leur désir profond, réussissent toujours à aller plus loin et qui méritent, à mon avis, d'être connus et reconnus. Et pour moi, c'est comme une petite famille. Là. C'est plus qu'un organisme, c'est vraiment un milieu de vie. Un milieu où qu'on peut être solidaire et s'encourager les uns les autres.
Est-ce que c'est difficile d'être membre à handicapable? Hugues, est-ce que tu peux dire comment on devient membre?
Bien, en fait, les gens n'ont seulement qu'à appeler pour obtenir des informations. Et il y a quelqu'un qui va pouvoir donner les renseignements si je ne suis pas en mesure de les donner. C'est sûr que pour être membre handicapable, il faut être premièrement une personne handicapée physique, puis deuxièmement avoir le goût du travail, dont la mission de l'organisme, comme on le disait au début, c'est de briser l'isolement aussi.
En finissant, est-ce que vous pouvez donner les coordonnées d'handicapable? Hugues?
819-563-2358. On est situé au 187 Laurier, bureau...
106.
Bureau 106.
Oui, de notre côté, on est situé au 187 Laurier. Nous, on est le bureau 214 et 216. Pour nous rejoindre, c'est le 569-9993. La semaine prochaine, on vous revient avec le thème « Les jeunes, le marché du travail ». On va vous parler de conférences qu'on a été voir. On vous remercie d'être venu. Vous avez transmis un beau message d'espoir, de belles valeurs. Vraiment, merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. J'espère que vous avez apprécié votre expérience.
Merci aussi pour l'invitation aussi.
Oui, merci, parce que je trouve que c'est une belle opportunité pour nous autres et ça a été une expérience très agréable. Merci.
Alors, merci Marc et merci Hugues.
Ça fait plaisir.
Merci à l'animation Roxane. On vous souhaite une belle semaine. À bientôt.